Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Moustaki, c'est mon frère.
Le frère, bonjour.
Bonjour Gonzalo.
Comment te portes-tu ?
Très bien. Et toi ?
Ouais. De qui, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Je vais vous parler d'une collection qui s'appelle Des nouvelles du sexe, qui avait été éditée par Les Inrecuptibles. Et là, c'est de Lydie Salvert en particulier que nous allons parler, enfin que nous allons lire. Dans un petit recueil qui s'appelle « Petit manuel d'éducation lubrique ».
Cette auteure,
j'avoue ne pas beaucoup connaître cette écrivaine. Je me suis beaucoup amusé à lire ce petit recueil parmi les autres que je relisais hier soir pour te les présenter. Et j'ai trouvé que c'était celui où le sexe était le plus gay. Et le sexe gay, c'est quand même plus sympathique. Fellation. Pratiquée par des femmes ambitieuses et pressées, la fellation s'accomplit le plus souvent à l'intérieur d'une automobile de la manière qui suit. La femme tient l'instrument de l'homme d'une main caressante, le place entre ses lèvres entrouvertes et le frôle doucement de la bouche. Elle pose ses doigts rassemblés en boutons sur la verge comme s'il tenait une flûte à champagne et empresse les côtés avec ses lèvres. Un coup de dent distrait serait le malvenu. Elle referme ses lèvres sur la pointe du sexe et le baise en aspirant. Rien ne l'empêche alors de se livrer à des spéculations diverses, puisque contrairement à d'autres, cet exercice a l'avantage de ne point obnubiler la pensée. Puis elle le fait entrer et sortir en rythme si possible, tout en regardant discrètement sa montre, car chaque seconde compte. À la sixième minute, elle introduit tout entier le sexe de l'homme comme si elle désirait l'avaler, puis violemment, elle l'éjecte de sa bouche car l'homme, à présent, est à sa merci. Et c'est le moment ou jamais d'exiger de lui quelques compensations. L'homme, pantelant, éperdu, au bord de la démence, dit oui à tout, une voix mourante. Elle termine sa succion en massant les génitoires pour accélérer l'opération. L'homme jouit dans sa bouche et déverse son triomphe. Il ne faut que quelques minutes à l'un comme à l'autre pour revenir à des sentiments naturels. Plusieurs conseils. 1. Garez votre automobile dans un endroit peu fréquenté. Un coup de klaxon au moment crucial ou tout autre fracas inopiné et votre jeune fille peut lâcher votre queue sans autre préambule ou pire, s'étrangler en avalant de travers. Imaginez les complications auxquelles donnerait lieu une mort par étouffement. À noter que les parkings souterrains offrent d'excellentes conditions aux amateurs de fellation. 2. Ne faites pas publiquement la description de l'organe de votre partenaire, fût-il des plus imposants. Ce serait manquer gravement à la délicatesse que de dévoiler l'intimité d'un homme respectable. 3. Si vous êtes dans l'incapacité de payer l'achat d'un vêtement, proposez au vendeur une petite pipe. Les cabines d'essayage sont adaptées à cet usage. Et rares sont les commerçants qui hésitent aujourd'hui devant ce mode de paiement. 4. Si la jeune fille assise à vos côtés dans votre automobile semble faire quelques manières, ouvrez votre braguette sans affectation et guidez fermement ses lèvres hésitantes. Vous la réjouirez extrêmement.
J'ai ressenti les premières atteintes du mal sous les sarcasmes de Marie-Lou. Mes oreilles, après des mots comme « vieux con », « pédale », se changèrent en feuilles de chou. Aux aurores, j'allais au café buraliste faire provision de fumigène. Et je demandais au pompiste, derrière le zinc, le plein de kérosène. Puis, traînant mes baskets, je m'allais enfermer dans les water closets, où là, je vomissais mon alcool et ma haine. Titubant, je m'en revenais, et les petits enfants riaient de mes oreilles en chou-fleur. J'avais pris peu à peu la tronche d'un boxeur.
Le cunnilingus.
Le pendant.
De même que la fellation consiste à sucer les parties viriles, le cunnilingus consiste à lécher les parties féminines. Et la personne qui opère un cunnilingus se nomme évidemment un cunnilinge. Aristophane disait avec mépris d'Ariphrade, célèbre cunnilinge, qu'il besognait de la langue. Favorisé par la nature amphibolique du langage, un certain nombre de saillies, d'un goût douteux, reposent sur l'usage équivoque du mot « langue ». En ce qui nous concerne, nous ne céderons en aucune façon à cette facilité. Rappel historique. Les cunnilinges chez les Grecs avaient mauvaise presse. Catulle les traitait de boucs en raison de leur fétide haleine. Suétone les tenait à distance sous prétexte qu'ils faisaient s'enfuir les convives. Quant à Martial, il les considérait comme de pauvres impuissants, affligés d'une larve pendante et animés d'instincts répugnants. Le sort des femmes, à cette époque, devait être, pour le moins, malheureux.
Je crois que j'avais le désir plus ou moins conscient de me défaire de l'image honorable, respectable, solennelle d'un prix Goncourt. J'avais peur d'être captive de cette image-là. Je ne voulais pas me laisser impressionner, intimider moi-même par la chose. Et donc, le petit traité était une occasion de vérifier que je pouvais disconvenir. Le fait que je sois médecin, sans doute, a dû encourager à regarder les choses du corps de façon, comment dire, en tout cas sans effarouchement, sans fausse pudeur, sans que les dispositifs religieux, moraux, esthétiques, etc. Viennent vous empêcher de voir. C'est l'occasion exceptionnelle de regarder le corps nu de l'autre, sans détourner les yeux, sans prétexte érotique, sans prétexte d'aucune sorte. Et donc c'est un exercice où il faut avoir qui vous amène à avoir un regard frontal sur les choses. Et je suis sûre que c'est ce qui m'a amenée à écrire comme je le fais, c'est-à-dire souvent à la tronçonneuse et souvent de façon trop frontale. J'étais, comment dire, soutenue par cette hypothèse qui va de d'Épicure, qui passe par Montaigne, par Spinoza, par Feuerbach plus récemment, et qui dit que l'homme qui s'accorde des plaisirs, l'homme qui s'accorde des voluptés, des sensualités, du bonheur dans le corps, celui-là est plus ouvert, moins méchant, moins aigre, moins fou. Je pense qu'une des choses qui m'a aussi amenée à l'écrire, entre autres, cette espèce de retour actuel de l'ordre moral, de l'ordre sexuel, de l'ordre religieux, avec la manif pour tous et des slogans qui étaient limites, me semble-t-il, du côté des homosexuels.
Thank you.
Les postures. Elles sont au nombre de 366. Mais nous n'évoquerons ici que les 15 plus remarquables. 1. La posture épanouie. La femme, allongée sur le dos, lève les deux cuisses très haut et s'écrie « Coucou !» Les facéties en amour ne sont pas interdites. Avant de se livrer à des mouvements ondoyants de sirène. 2. La posture acrobatique. La femme lève ses jambes et pose ses pieds sur les épaules du fututeur agenouillé. Impatient de combler son vide existentiel, le fututeur s'engouffre. 3. La posture du clou. La femme a une jambe repliée autour du cou du fututeur et l'autre en extension, arrangement assez inconfortable et qui exige un sens de l'équilibre assez développé. 4. La posture en sautoir. La femme a les pieds croisés en sautoir sur les reins du fututeur. Il serait d'une grossièreté effroyable que le fututeur demande à la femme qu'il porte ainsi en sautoir. Que foutez-vous là ? 5. La posture hippique. L'homme est couché sur le dos et la femme le chevauche en faisant osciller de façon lubrique son échine souple. Car la femme, par essence, est une salope. 6. La posture pivotante. Elle est réservée aux experts. Le fututeur, planté dans le sexe de la femme, tourne en rond l'air égaré en maintenant les reins de sa compagne. 7. Le poirier. L'homme, en appui sur son crâne, est en position verticale. Son sexe dessine avec son corps un angle droit. Son visage est flamboyant. Les veines de son cou turgescentes. La femme essaye de trouver le meilleur moyen de s'unir à cette figure en équerre. Mais le temps qu'elle ait trouvé l'angle d'attaque pour réaliser la jonction est pof. L'homme, épuisé, choit. Dans la région de Rishikek, il arrive que l'homme et la femme, tous deux en position du poirier, s'unissent sexuellement. Il s'agit en général de yogis surentraînés. 8. Sur le flanc. Décrite par Ovid comme la moins épuisante, ce qui n'est point à négliger, cette figure convient particulièrement aux personnes laides. Il est important de savoir que la vue de choses laides incite souvent à accomplir des choses laides, ce qui, en l'occurrence, n'est pas dépourvu d'intérêt. 9. La posture du crabe. La femme a les jambes repliées sur la poitrine, le fututeur se montrerait d'une grossièreté impardonnable s'il reprochait à la femme de se croiser les jambes. 10. La posture debout. La plus appropriée aux nécessités de la vie moderne, laquelle exige rapidité, présence d'esprit et consommation immédiate. Elle permet d'expédier la fornication en quelques minutes et peut s'accomplir en tout lieu, hall, ruelle, dancing, toilette publique, etc. C'est la raison pour laquelle les antimondialistes la condamnent véhémentement. La posture suspendue. L'homme, appuyé debout contre un mur, tient sa maîtresse assise dans le berceau de ses mains. La maîtresse passe ses bras autour du cou de son amant comme une corde et, cédant des pieds contre le mur où son amant est appuyé, commence un délicieux mouvement de va-et-vient. Les cœurs des deux amants palpitent à l'unisson. Cette posture très appréciée exige deux préalables. A. Que l'été soit parfaitement stable. B. Que l'amant ne soit pas une mauviette qui lâche prise au moindre fait. 12. La posture en tête-bêche. L'homme et la femme sont allongés l'un contre l'autre, tête-bêche. Ne sachant que faire, ils sucent, d'un geste archaïque, ce qui est à leur portée. 13. La pratique communiste. Désigne une pratique qui rassemble plusieurs hommes et une femme. Les hommes font l'amour à la femme l'un après l'autre ou tous en même temps. L'un la caresse, l'autre lui baise les lèvres, un troisième la pénètre par devant et un quatrième par derrière. Dans un idéal d'équité, chacun doit céder sa place en alternance et assurer la circulation générale de la jouissance. Un conseil, ne chipotez pas et n'ayez pas les yeux braqués sur votre montre. L'esprit comptable est étranger aux voluptueux. Le seul problème dans ce type de figure est de se désenchevêtrer sans incident. La même situation peut se décrire lorsque plusieurs femmes s'affairent ensemble autour d'un seul homme. Avec ceci de particulier que les femmes s'amusent entre elles grâce à leur divertissoir, ce que ne font guère ces messieurs. 15. La farandole. Une dizaine de jeunes filles, pensionnaires d'un institut religieux, s'embrochent en chapelet à l'aide de godemichés et forment une charmante farandole qui symbolise le printemps. Cette agreste figure d'une beauté botticellienne peut être également composée par de folâtres jeunes gens. Mais celle-ci est loin d'avoir la légèreté, la douceur et la grâce bucolique de celle-là. Tout déjeuner sur l'herbe, vulgairement appelé pique-nique, qui se veut réussi, ne peut que s'achever sur une farandole. Les plus grands peintres l'ont compris. 15. La pratique échangiste se fonde sur l'adage suivant. Deux tiens valent mieux qu'un seul, tu l'auras. Sous l'empereur Ligure, cette pratique était des plus répandues. Et les Spartiates se faisaient un honneur d'échanger généreusement leur épouse. Mais le relâchement des mœurs et le déclin du sentiment démocratique opéré dès lors ont entraîné, hélas, sa disparition progressive. Remarque. Les adeptes du tantrisme considèrent qu'il faut rigoureusement distinguer l'éjaculation, qui parachève la futution, d'un simple éternuement sexuel applique des techniques qui permettent de différer au maximum l'instant jaculatoire. La plus élaborée est la respiration du cobra, qui associe à la technique du verrou, dompte l'énergie libidinale, aveugle et fanatique, pour l'élever sublimement jusqu'au chakra supérieur. Notons cependant que l'adepte tantrique le plus convaincu se montre incapable d'atteindre au coït perpétuel, rêve tenace de l'humanité tout entière.
Absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses lévis. Je lis le vice et je pense à Carole. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de sèches ointoles entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec son zip à entrebâiller ses lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Baby Doll et je pense à Lewis Carroll. Son regard absent et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la sono lançant accords de cartes et de quintes, tandis que Marie-Lou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. Lorsqu'en un songe absurde, Marie-Lou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, mais son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace, du bleu lavasse de sa paire de Lévis, tandis qu'elle exhale un soupir au menthol. Ma débile mental perdu en son exil physique et cérébral joue avec le métal de son zip et l'atoll de corail apparaît. Elle s'y coca-colle à un doigt qui en arrêt au bord de la corolle est pris près du calice du vertige d'Alice de Lewis Carroll. Songes obscurs, Marilou se résorbe. Que son coma absorbe en des rêves absurdes. Sa pupille s'absente et son iris absinthe. Subrepticement se teinte de plaisirs en attente. Perdu dans son exil physique et cérébral. Elle exhale des soupirs fébriles parfumés au menthol. Ma débile mentale fait teinter le métal de son zip. Et Narcisse, elle pousse le vice dans la nuit bleue lavasse de sa paire de Lévis. Arrivée au pubis, de son sexe corail écartant la corolle, prise au bord du calice de vertigo, Alice s'enfonce jusqu'à l'os au pays des malices de Lewis Carroll. Absente, iris, absinthe, babydoll, écoute ses idoles. Jimi Hendrix, Elvis, Presley, T-Rex, Alice, Cooper, Lou Reed, les Rolling Stones, elle en est folle. Là-dessus, cette Narcisse se plonge avec délice dans la nuit bleu pétrole de sa paire de Lewis. Elle arrive au pubis et très cool au menthol. Elle se self-contrôle son petit orifice. Enfin, poussant le vice jusqu'au bord du calice. D'un doigt sexe symbole s'écartant la corolle. Sur fond de rock'n'roll s'égare mon Alice. Au pays des malices de Lewis Carroll.
Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce court manuel ? L'humour. Merci. Avec plaisir.